se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Lundi 28 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h tout pile sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous, bon courage, c'est lundi, mais on est ensemble. Le journal, Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Faire rouler la France en RER, grand projet d'Emmanuel Macron annoncé hier. Il veut rapidement développer le réseau dans 10 grandes villes françaises. Le zéro Covid, les Chinois n'en peuvent plus. Flambée de colère inédite, des centaines de manifestants dans les grandes villes. Les Allemands obtiennent un sursis après leur match nul contre l'Espagne hier soir. La joie des Marocains aussi avec une victoire surprise contre la Belgique. 2-0.
Emmanuel Macron promet des RER partout en France.
Pas qu'à Paris. Le RER y avait été lancé dans les années 60 par Charles de Gaulle pour décongestionner les routes. Mettez-moi de l'ordre dans ce foutoir, avait dit le général en survolant l'Île-de-France. En 2022, voici hier ce qu'a dit le président de la République. Il répondait à des internautes sur YouTube.
C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
Concrètement, à quoi s'attendre pour l'instant? Pas de budget, pas de liste précise de villes. Le Conseil d'orientation des infrastructures devrait le décider dans un mois. D'ici là, plusieurs métropoles se positionnent, comme Lyon. Des villes comme Fontaine-sur-Saône sont situées à seulement 10 km, mais restent très isolées. Vincent Chevalier avec Mao Bécard-Granier, les RER, les habitants l'attendent de pied ferme.
À Fontaine-sur-Saône, à 10 km de Lyon, pas de gare pour se rendre dans le centre-ville lyonnais. C'est soit le bus, soit la voiture.
C'est vrai que ça fait une petite trotte, surtout quand il y a les embouteillages et quand c'est des moments où il y a beaucoup de voitures.
Il faut compter minimum 45 minutes en bus. Mathieu, qui travaillait tous les jours à Lyon, perdait beaucoup de temps dans les transports.
C'est vrai que des fois j'arrivais un petit peu en retard, je mettais des fois 1h30. Oui, il y avait peut-être entre 30 et 45 minutes de délai que je ne pouvais pas contrôler.
Alors forcément, ce projet de RER, s'il passait dans leur ville, séduit les habitants.
Pourquoi pas? Ce serait une bonne idée, ouais.
Bah, ce serait peut-être une bonne idée pour les personnes qui travaillent, toujours pareil.
Une offre de transport améliorée, d'accord, mais le maillage ne sera pas aussi important qu'en Île-de-France, explique Yves Crozet, spécialiste de l'économie des transports.
Si on promet une amélioration, évidemment, ça plaît à tout le monde. Ça sera essentiellement de la modernisation, une amélioration du service TER. Le terme RER est un terme exagéré parce qu'on n'aura pas du tout le même service. On peut avoir, par exemple, dans Paris, avec le RER B ou le RER A, avec un train toutes les 2 minutes ou 3 minutes.
Selon lui, l'investissement pourrait être d'1 milliard d'euros par agglomération.
En attendant, retour dans les transports en commun parisiens où les usagers râlent, les rames sont bondées, les temps d'attente augmentent. Comme les prix, celui du ticket de métro à l'unité doit faire un bond de 1,90€ à 2,30€ et le pass Navigo doit lui aussi subir la plus forte inflation, plus 36%, des hausses qui devraient être votées le 7 décembre prochain pour faire face à l'inflation et à la baisse des recettes.
Et sur toutes ces questions, ne manquez pas mon invité à 7h40. L'invité du jour sur AMC, c'est Clément Beaune, le ministre des Transports.
7h03 sur RMC, la crainte d'une nouvelle rixe à Coignères, des renforts de CRS mobilisés dans les Yvelines. Après une bagarre, c'était ce samedi, entre deux bandes rivales, un adolescent tué, un autre placé en garde à vue. Le premier est mort à coups de marteau, le second s'est rendu hier au commissariat, Lucille Pascanet.
L'adolescent a 16 ans et il est originaire de Coignères dans les Yvelines. Il dit être l'auteur du meurtre du garçon de 14 ans. Il a déclaré avoir eu un marteau dans les mains samedi soir. Vers 1h du matin, une vingtaine de jeunes du quartier des Marchands à Coignères tirent des mortiers sur la sécurité de la compétition de MMA. Leur but, faire diversion pendant qu'ils s'affrontent avec les jeunes du quartier des Friches de la ville voisine de Montrepas. Un jeune homme âgé de 14 ans est touché à la tête, vraisemblablement par un marteau. Les secours échouent à le réanimer. Un autre adolescent est blessé. Tous deux sont originaires de Montrepas. La tension entre les deux quartiers dure depuis plus de 10 ans. En janvier 2021, déjà, un adolescent avait été blessé au couteau lors d'une rixe similaire.
On en vient au retour du Covid. La 9e vague arrive, chiffre symbolique. Les hospitalisations en réanimation ont de nouveau franchi la barre des 1000 ce vendredi. Les autorités sanitaires s'inquiètent d'une triple épidémie Covid, grippe, bronchiolite qui pourrait saturer les hôpitaux. On y revient dans votre journal à 7h30.
Il est 7h04 sur RMC et en Chine, une fronde inédite contre la politique zéro Covid.
Des centaines de manifestants dans les grandes villes à Pékin, Wuhan ou encore Shanghai. Des manifestants réclament la démission du président, colère attisée par plusieurs affaires où les services d'urgence ont été ralentis par des restrictions sanitaires jugées inefficaces. 3 ans qu'ils les subissent dans les universités par exemple. Voir son prof se déplacer librement ne sont que de très lointains souvenirs, Pierre Bourgès.
Être étudiant en Chine, un parcours du combattant depuis 3 ans près de Shanghai, ils ne peuvent même pas sortir de leur campus universitaire. Thomas Malishvesky, professeur de français dans le pays, raconte leur quotidien.
Ils sont vraiment isolés dans le sens où ils vont manger à telle heure, ils peuvent se doucher à telle heure, ils sont assis toute la journée sur leur lit, sur leur bureau. C'est pas une vie.
Pas une vie, même pour leurs professeurs exclus du campus. Ils n'ont pas vu leurs étudiants depuis le début de l'année. Pour faire cours, c'est à travers un ordinateur.
On se demande quel est le coût humain. Est-ce que c'est pour épargner des vies? On doit aussi sacrifier notre quotidien. La balance n'est pas forcément positive, donc il y a plutôt une incompréhension.
Alors ils sortent pour protester, ce ne sont pas les seuls. Dans l'entourage de Michel Papineski, un Français qui habite à Shanghai, la parole se libère.
La plupart des gens ont compris que c'était un peu du délire. Les vigiles de ma résidence m'ont dit, oui, quand même, moi ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mon fils. Quelque chose qui ne se faisait pas encore il y a quelques années, c'est juste de parler avec des gens et leur dire réellement, bon, tu ne penses pas que ça commence à faire beaucoup là? Moi je suis, si, bien sûr, ça fait beaucoup, beaucoup même.
Sur les réseaux sociaux, les étudiants s'organisent. L'objectif désormais, appeler à la libération des citoyens arrêtés pendant les manifestations.
Mobilisation en Chine qui semble être la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie. C'était en 1989. En Italie, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence sur l'île d'Ischia au sud de Naples, touchée par un glissement de terrain ce samedi. Bilan provisoire, 7 morts et encore 5 disparus.
RMC, Coupe du Monde 2022.
On commence avec l'Allemagne sur le fil hier qui conserve une chance de voir les 8e de finale en arrachant à l'Espagne le nul en fin de match. Un partout, les Allemands qui évitent le pire, Jean Rességuier.
L'Allemagne a du caractère et l'a démontré avec un double sursaut d'orgueil, celui de revenir dans le match alors que l'Espagne avait ouvert le score à l'heure de jeu et surtout rester en vie dans ce groupe avec ce match nul conjugué avec le succès un peu plus tôt du Costa Rica contre le Japon. Il a fallu aussi un coaching un peu plus ambitieux en cours de match de la part du sélectionneur Hansi Flick qui fait rentrer le roi Sané pour dynamiser le jeu offensif et surtout un véritable avant-centre, Niklas Füllkrug, inconnu du grand public sauf à Brême, son club, qui délivre une frappe puissante pour égaliser et surtout permettre aux Allemands de ne pas être ridicules dans cette Coupe du Monde comme en 2018. Même s'ils ne sont pas maîtres de leur destin, outre une victoire sur le Costa Rica, tout dépendra du résultat du Japon face à l'Espagne.
Et la victoire surprise 2-0 du Maroc contre la Belgique hier, victoire qui a provoqué des incidents, des interpellations à Bruxelles comme à Liège ou encore à Anvers, des véhicules endommagés, des vitrines brisées, retour au calme en début de soirée. À Paris par contre, juste de la joie, les Marocains ont fêté leur succès, un bon pas vers une qualification historique, Clément Brossard.
Des chants à en perdre la voix. Les supporters marocains attendaient une victoire de leur sélection en Coupe du Monde depuis 24 ans. Alors au coup de sifflet final, c'est l'explosion et la naissance de grandes ambitions.
Elle est surtout méritée. On a très bien joué du début jusqu'à la fin. Et c'est très bien des lions de l'Atlas et on ira jusqu'à la finale.
Depuis les bars parisiens, les fans ont d'abord fêté la victoire dans différentes rues de la capitale avant de rejoindre les Champs-Élysées. Concerts de klaxons, nouveaux chants, drapeaux et quelques fumigènes de sortie. Mais surtout, ce même sentiment de fierté.
On n'est pas là par hasard non plus. On a quand même prouvé... Dans toute la phase de qualification, notre potentiel.
Aujourd'hui, on était un peu dans une position d'outsider et on a rendu fier tout le peuple avec une victoire contre le deuxième mondial. Je veux dire qu'une phrase, seul le ciel est notre limite.
Parmi eux, certains ont prévu de se rendre au Qatar si le Maroc se qualifie. Un match nul jeudi face à une équipe du Canada déjà éliminée suffira aux Marocains pour voir les 8e de finale de Coupe du Monde, une première depuis 36 ans.
Et aujourd'hui, on va surveiller le Brésil. Son Neymar blessé à la cheville est forfait. Rendez-vous à 17h face à la Suisse. Le Portugal affronte l'Uruguay à partir de 20h.
C'était le journal de Marguerite Dumont. Il est 7h09 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC à vos côtés, comme chaque matin, avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour, Amélie, vous avez répondu à l'appel à l'aide de parents d'enfants handicapés.
L'école est un droit pour tous en France. Et pourtant, Anne est maman d'une fillette autiste de 8 ans qui aurait dû faire sa rentrée en CP cette année. Pour suivre les cours, la petite a besoin d'un AESH, un accompagnant des élèves en situation de handicap. Mais il n'y en a pas suffisamment en France. Résultat, la fille d'Anne ne va pas à l'école.
Ça me met en difficulté. Moi, j'ai pas décidé de faire l'école à la maison à mon enfant. C'est pas un projet de vie que j'ai.
Anne est prête à payer une accompagnante privée. Elle a trouvé la bonne personne, la bonne association qui peut signer une convention d'accueil avec l'éducation nationale. Mais depuis septembre, sa demande est bloquée au rectorat du Val-de-Marne.
Je mets en place tout ce qui peut faciliter l'intégration ou l'inclusion de mon enfant au sein de l'école, tout ce que je veux. C'est qu'on puisse me signer le papier. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien du tout. Je demande seulement qu'on me signe mon papier.
C'est du délire. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie d'accompagnants. La maman, elle trouve elle-même une solution. Elle est même prête à payer. Et c'est l'éducation nationale qui bloque.
Oui, ça paraît fou. C'est pourtant bien vrai. Accompagnant d'élèves handicapés, c'est un métier à mi-temps qui attire peu, rémunéré moins de 900 euros par mois. Dans le Val-de-Marne, il manquerait 1300 AESH, selon le collectif des parents du 94. Stéphanie Valentini est présidente de l'association Cap Handicap qui aide les parents comme Anne à trouver du coup des accompagnants privés quand évidemment ils ont les moyens de les payer. Elle ne comprend pas pourquoi le rectorat ne répond pas à sa demande depuis 3 mois.
Vu la pénurie d'AESH Éducation nationale, c'est une chance que nous, on arrive à trouver des personnes qui veulent bien travailler avec nos enfants. Il nous arrive de demander l'embauche aussi à l'éducation nationale de ces personnes, parce qu'il y a aussi des parents qui financièrement n'ont pas les moyens de payer du privé. On leur amène de l'humain. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi ils font barrière.
Une vingtaine de familles sont actuellement en attente de scolarisation de leurs enfants avec un accompagnant privé via cette association. Mais tant qu'elle n'a pas de réponse de la part du rectorat, évidemment, elle ne peut rien faire.
Vous avez repris le dossier. Que vous dit le rectorat ?
Nous avons beaucoup insisté et nous avons fini par obtenir la réponse que l'association globalement attendait depuis le mois de septembre. En fait, la direction académique admet qu'il y a bien eu un problème dans ce dossier, enfin même une multiplication de problèmes. Elle présente ses excuses, dit ne pas savoir précisément ce qui s'est passé, ne pas avoir la réponse à nous donner, mais nous assure avoir pris des mesures pour y remédier. La direction de l'académie s'est engagée en tout cas auprès de nous à revenir vers l'association avant fin décembre. Elle a donc un mois pour le faire. On espère en tout cas que la fille d'Anne et la vingtaine d'autres enfants autistes concernés pourront retrouver le chemin de l'école après les vacances de Noël.
Ils auront raté la rentrée. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est mieux que rien. Heureusement que vous êtes là, Amélie, évidemment. Enfin, on se dit quand même, c'est délirant. Même là, même quand tout est prêt et qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, ils vous disent encore, ce sera fin décembre. Et pendant ce temps-là, c'est des enfants qui auront raté la rentrée, alors que c'est des enfants qui ont particulièrement besoin justement d'un rythme et d'un encadrement.
Absolument.
Merci, Amélie. Et vous n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Tripler les sanctions contre les squatteurs et réduire les délais de recours pour les loyers impayés. C'est l'objectif d'un texte de loi débattu aujourd'hui à l'Assemblée. Une loi anti-squat, un texte dénoncé par les associations d'aide au logement, comme Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre. Il est le témoin du jour dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 sur RMC. Bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
C'est vous, Manuel Domergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Et il y a cette proposition de loi qui va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi anti-squat qui propose de tripler les sanctions contre les squatteurs. Et en fait, ce texte, il vous inquiète. Pourquoi ?
Oui, c'est anti-squat et c'est aussi contre les ménages en impayé de loyer, par exemple, pour accélérer, augmenter le nombre d'expulsions locatives. Donc il y a aussi un amalgame entre des squatteurs et des gens qui sont juste en impayé. Pourquoi ça nous inquiète ? Parce que ça peut envoyer en prison pendant 10 ans des personnes qui ont squatté des bâtiments vacants. Quand on squatte un bâtiment vacant, c'est pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer 10 ans en prison des gens qui refusent juste de mourir à la rue ? Évidemment que non, c'est disproportionné.
En fait, ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas pour les squats.
Non.
Vous n'êtes pas pour les squatteurs. Mais vous êtes contre des sanctions qui vous paraissent excessive.
En fait, il faut comprendre que les personnes qui squattent le font parce qu'elles n'ont pas de logement correct. Il y a un droit au logement en France qui n'est pas respecté massivement. Et donc, les personnes, souvent, vont être hébergées chez des amis. Mais quand ils n'en ont pas, ils vont trouver, parfois, des bâtiments vacants. Ça ne fait pas de tort à grand monde. On parle de bâtiments vacants. On ne parle pas de squat de domicile.
En fait,
c'est déjà
mélanger,
pénalisé.
C'est-à-dire que, évidemment, nous, quand on entend squat, on pense à ces quelques personnes qu'on voit régulièrement, qu'on entend témoigner, qui disent, voilà, qui sont des retraités, qui se retrouvent à vivre dans une caravane, alors que ils ont payé toute leur vie un emprunt pour avoir leur maison et qu'elle est squattée. Vous ne défendez pas ces squatteurs-là.
Non, mais la loi non plus. La loi actuelle prévoit d'expulser en 48 heures les personnes qui squattent des domiciles.
Oui, mais en 48 heures, vous savez bien qu'il y a des failles. En 48 heures, si vous vous en rendez compte tout de suite...
Non. Une fois que vous en rendez compte, en 48 heures, la police vient et expulse le locataire de votre domicile. Résidence secondaire ou résidence principale.
Hein.
Domicile. En revanche, s'il y a des squatteurs qui vont dans un bâtiment abandonné, un bâtiment vacant, là, on passe
c'est
devant un
juge.
Un bâtiment vacant. Il n'y a pas de meubles, par exemple.
Ouais. C'est quoi, vacant. C'est des bureaux.
Ou des immeubles de logement qui sont vacants parfois depuis des années et des années. Là, ça ne fait pas de tort à grand monde, on est d'accord. Là, on peut attendre qu'un juge se prononce, ça prend quelques mois, et prononce l'expulsion. Parce qu'en France, la propriété, elle est déjà protégée. Là où c'est assez pervers, cette proposition de loi de M. Kasbarian, c'est qu'il étend la notion de domicile, qui est donc protégée, à des logements vacants. Un logement vacant n'est pas un domicile. Quand il n'y a pas de meubles, vous n'habitez pas dans un logement où il n'y a pas de meubles. Et donc, là, il va expulser en 48 heures, avec des peines de prison allant jusqu'à 3 ans, et même plus, jusqu'à 10 ans pour vol, des personnes qui ont le seul tort d'aller squatter un bâtiment vide.
Et en même temps, à la Fondation Abbé Pierre, vous dites, attention, on est aussi en train de pointer du doigt ceux qui ont des loyers impayés, qui jusqu'à présent n'étaient pas assimilés à des squatteurs.
Tout à fait.
Ils vont être tous dans la même bulle?
Oui, ils sont considérés dans ce texte comme des voleurs. Vol, c'est jusqu'à 10 ans de prison quand c'est dans un local d'habitation, quand c'est en réunion. Donc là, c'est extrêmement grave. On parle de gens qui ont comme seul tort, encore une fois, là, d'être en impayé de loyer, ou même parfois il n'y a pas d'impayé, c'est juste que le propriétaire veut reprendre à la fin du bail le logement qu'il mettait en location. Il a le droit, mais aujourd'hui, on passe par une procédure, c'est normal, ça prend parfois quelques mois, et je peux comprendre que pour des bailleurs qui subissent des impayés pendant plusieurs mois, ce soit difficile. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est sortir par le haut, avoir des garanties contre les impayés.
Il y a une garantie publique. Si la solution, c'est pas de sanctionner, c'est quoi ? Il y a bien
Sanctionné par l'expulsion. Il y a une procédure. Est-ce que envoyer
est-ce
ces personnes
en plus la prison, c'est ça votre question ?
Est-ce qu'il faut envoyer en prison les locataires en impayés ? On a une inflation des charges, des prix de l'énergie, des loyers depuis 20 ans. Les personnes qui, alors qu'elles travaillent parfois, n'arrivent pas à payer leur loyer, est-ce que ce sont des voleurs ? Non, ce sont des personnes en difficulté. Il faut les accompagner, les reloger, indemniser les bailleurs qui subissent des impayés. C'est normal, c'est la loi, ça existe
déjà.
Oui,
vous respectez le droit à la propriété
absolument
privée, quoi.
Mais en fait, la loi aujourd'hui est déjà équilibrée. Rajouter des peines de prison et considérer comme des voleurs des ménages qui sont en impayés, c'est n'importe quoi.
Manuel Domergue, vous m'avez convaincu. Non, mais c'est-à-dire qu'en rentrant dans ce studio, je me suis dit non, mais c'est difficile quand même d'aller contre une loi anti-squat, surtout dans le contexte actuel où on a vu des gens dont on se mettait à leur place, on se disait les pauvres,
oui,
il y a quand même
sûr.
Pas. Mais là, quand vous dites attention, voilà, expulser, oui, imposer 10 ans de peine de prison et en faire des voleurs, non. Manuel Domergue, vous êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Merci d'être venu témoigner ce matin. Et donc défendre votre point de vue, il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans 20 minutes, l'invité du jour, ce sera Clément Beaune, le ministre des Transports. Il nous donnera plus de détails sur ces fameux RER qu'Emmanuel Macron veut développer dans 10 grandes villes de France. Et puis dans un instant, une aide de 50 à 200 euros pour ceux qui se chauffent au bois. Les détails avec Emmanuel Le Chypre et Arnaud Demange qui l'enjoint.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Les indiscrets du service politique d'RMC avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
Vous avez ce matin des nouvelles des macronistes battus aux dernières législatives et puis le recasage, franchement, ça n'est finalement pas tout pour tout le monde.
Non, il y a la face visible, hein, les anciens ministres, Castaner au tunnel du Mont-Blanc et au port de Marseille, de Montchalin à l'OCDE, Castex à la RATP, puis il y en a beaucoup d'autres pour qui ça n'est pas aussi facile. Pour rappel, il y a eu en Macronie 114 battus aux législatives sur 350 et selon nos informations, Plusieurs dizaines sont toujours en recherche d'emploi. Les recasés, c'est une minorité, s'agace un ex-élu du Modem, où un tiers des battus sont dans l'impasse. Et ça urge parce que pour un député, les indemnités chômage, c'est 6 mois maximum. Ça veut dire qu'au mois de janvier, c'est fini. Alors, c'est plus facile pour ceux qui étaient fonctionnaires, qui étaient libéraux, les profs, les médecins. Mais pour ceux qui avaient quitté le privé et ils étaient nombreux, bah c'est plus compliqué.
Quel est le problème? Ils sont trop étiquetés?
Oui, on est trop marqués, reconnaît l'un de ses anciens. Les employeurs ont peur du papier dans la presse locale. Ça donne beaucoup de CV sans réponse. Alors, ces battus de 2022 se serrent les coudes dans une boucle Telegram. Les virés pas déprimés, c'était le titre, qui est devenu plus député, mais toujours engagé. Ils sont environ 150 ex-élus, ex-conseillers. Ils n'ont pas totalement décroché de la politique. Ils n'ont pas oublié deux promesses d'Emmanuel Macron. Le président a promis de les aider. D'ailleurs, il a chargé l'un de ses conseillers de le faire. Et puis, quand il les a tous reçus fin août, il leur a dit aussi « Tenez-vous prêts à repartir en campagne, on ne sait jamais ».
On ne sait jamais, les indiscrets du service politique.
RMC, Apolline Matin.
Bientôt 7h30, place à l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel. Certains ménages se chauffant au bois vont bénéficier d'une aide de l'État dès le 22 décembre.
Oui, c'est une aide destinée aux 3,4 millions de ménages se chauffant.
Pour le feu de cheminée de Noël.
Eh ben, pas seulement le feu de cheminée de Noël, c'est aussi ceux qui se chauffent au quotidien, notamment avec les fameux pellets. Eh bien, oui, parce qu'il faut rappeler que le chauffage au bois a connu un gros succès jusqu'à l'an dernier, puisque c'est une énergie qui coûtait une fois et demie moins cher que le gaz naturel et près de deux fois et demie moins cher que le fioul. Mais voilà, comme les énergies concurrentes, le bois coûte de plus en plus cher. Pour les fameux pellets, par exemple, on est quand même sur des rythmes d'augmentation qui frôlent les 50% sur un an.
50% ouais. Sur un an. Qui va bénéficier de cette aide et pour quel montant?
Alors, ce sont les Français qui gagnent jusqu'à 2260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4750 euros par mois pour un couple avec deux enfants. L'aide ira de 50 à 200 euros. C'est une mesure qui coûtera 230 millions aux finances publiques. Et ce qu'il faut vraiment noter, parce qu'il y a une évolution de ce côté-là, c'est que c'est une aide dont les conditions sont plutôt larges. Le souci du gouvernement aujourd'hui, c'est de ne pas rallonger la liste déjà bien fournie des aides sous conditions de ressources, dont la classe moyenne qui travaille se sent exclue. Le chèque énergie à 100 euros, par exemple, il faut rappeler que c'est pour ceux qui gagnent moins de 900 euros par mois et que la rallonge de 200 euros au chèque énergie, c'est pour eux aussi. Et donc, Gabriel Attal l'a bien précisé hier, c'est la classe moyenne, la France qui travaille, qui doit être aidée.
Oui, il a dit, on doit vraiment mettre en priorité ceux qui bossent.
On sent que ce souci des effets
de seuil. Ce que nous, on ressent, sur RMC, depuis, ça fait des semaines qu'on en parle.
Nos auditeurs.
Et effectivement, ils ont fini par nous écouter.
On sent que c'est la colère de cette classe moyenne qui préoccupe le gouvernement.
Et ça va fonctionner comment, Manu?
Eh ben, vous pourrez vous connecter, si vous vous chauffez au bois, au site chèqueénergie.gouv.fr. Vous rentrerez un certain nombre d'informations pour vérifier que vous êtes bien dans les niveaux de revenus qui bénéficient de la prime et pour prouver aussi que vous vous chauffez au bois.
Et vous n'hésitez pas, si ça marche pas, vous nous appelez au 3216 parce que j'ai quand même toujours un petit doute sur le décalage entre l'annonce et ensuite le moment où on vous redemande 12 milliards de pièces justificatives et où finalement les aides vous les touchez pas forcément, donc n'hésitez pas, le 3216 vous est toujours ouvert, il est 7h25.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Deux manches pirates, le 32-16.
Arnaud, où êtes-vous? Arnaud Demanche, qui est à Nice ce matin.
Eh oui, Apolline, effectivement, j'ai même pris mon ton de grand reporter ce matin pour vous faire vivre mon périple niçois. Et je jouais ce week-end dans cette belle région où tous les hommes portent des doudounes sans manches bleu marine et ont des cheveux blancs. Et alors, les mamies là-bas sont pas comme les nôtres. Les leurs ont la peau orange, elles se promènent en leggings avec des baskets à motif léopard et un bichon maltais teint en rose. C'est typique, c'est génial. Mais j'ai quand même consulté le Standard pour voir ce qui faisait réagir ce matin dans l'actualité. Et c'est la dégradation de l'habitat. Vous l'avez su, 3 immeubles ont été évacués à Lille ce week-end en raison d'un risque d'effondrement. Apolline, je sais que vous recevez Marion Maréchal tout à l'heure. Il faudra lui en parler. Elle est quand même vice-présidente du parti d'Éric Zemmour. Autant dire qu'elle s'y connaît en structures qui sont à deux doigts de s'écrouler. En tout cas, la situation à Lille a choqué Jean qui nous a dit « ça devient vraiment n'importe quoi ». À Lille, normalement, les week-ends, c'est les gens qui tiennent plus debout, c'est pas les immeubles. Et puis, Svetlana, une jeune réfugiée ukrainienne,
ukrainienne récemment installée dans un petit appart du centre-ville de Lille a peur. Elle nous dit « J'ai pas quitté Mariupol pour vivre encore plus dangereusement dans le Nord-Pas-de-Calais ». En tout cas, l'inquiétude domine chez les Lillois, notamment pour Hugues, qui nous a dit « C'est horrible ce qui arrive à notre belle ville. J'espère qu'on va vite trouver des solutions parce que je voudrais pas qu'on finisse avec une ville détruite, rasée et qu'on la reconstruise en toute moche comme le Havre. » Voilà, bon courage à tous, les Havrais, les Lillois, les Niçois et tous les autres. Je vous embrasse, à tout à l'heure.
Restez à Nice, Arnaud, parce que là, effectivement, la vie est dangereuse en France. À tout à l'heure, 8h20, il est 7h27. Il est 7h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le retour du froid, nous dit Géraldine, inquiétude des associations. Ce matin, un logement sur cinq est une passoire thermique en France. Avec le froid, les maladies hivernales, triple épidémie, des médecins alertent, vous les entendrez. Et rendre les trottoirs aux piétons, le Conseil national de la sécurité routière demande au gouvernement de sévir davantage contre les trottinettes électriques.
Et il va falloir se résoudre à allumer et à bien allumer le chauffage.
Oui, Géraldine nous prévient, depuis ce matin, les températures vont passer sous les normales de saison à partir du milieu de la semaine. On attend même des gelées et forcément, dans le contexte de la hausse des prix de l'énergie à 28% selon l'INSEE, eh bien ça inquiète les plus modestes ou ceux qui vivent dans des passoires thermiques à qui Nicolas Repère a tendu son micro RMC.
Avec les températures hivernales de cette semaine, Fatima sait qu'elle va passer des moments compliqués.
Si j'ai froid, je prends mon peignoir, je prends une doudoune et c'est bon. On s'assoit avec une couette dans le fauteuil pour regarder la télé.
Cette grand-mère de 70 ans vit dans un logement très mal isolé. Cette année, elle a dû s'équiper.
J'ai un petit radiateur, je l'ai acheté. Oui, électrique, pour chauffer un petit peu la salle. Le salon, il est un peu frais. Hein. Je ferme les rideaux, je ferme... Voilà. Mais il fait froid.
Mais elle sait que ses factures de chauffage risquent d'exploser.
150, 80, voilà, les charges. Maintenant, c'est tout cher.
Propriétaire d'une vieille maison dans le Val d'Oise, Francis cherche, lui, des alternatives avant d'allumer son chauffage au gaz.
Il faut aller couper le bois, et voilà, dans la cheminée, et puis on mettra des pulls en plus, on sait rien, on se démerdera. Plus que tu montes la température, plus que ça bouffe de gaz, la chaudière. Quand on peut payer, on paye, et puis quand on peut plus, bah on paye plus. On coupe carrément, voilà.
L'Observatoire national de la rénovation énergétique dénombre 20% de passoires thermiques parmi les 36 millions de logements en France.
Et le retour du froid s'accompagne du retour des maladies hivernales, grippe, bronchiolite et Covid. Romain Houck, vous avez regardé les derniers chiffres ce matin pour RMC et vous nous dites qu'on est sur une triple épidémie.
Oui, épidémie de grippe d'abord. 5 régions aujourd'hui sont officiellement passées en orange, en phase pré-épidémique, alors que la couverture vaccinale n'est pas encore à la hauteur. Surtout chez les plus fragiles, il manque 1,5 million de doses à injecter par rapport à la même période l'an dernier. Épidémie de Covid, on a un peu tendance à l'oublier, mais elle est toujours là. Elle s'intensifie, on s'approche des 50 000 cas quotidiens et la barre des 1 000 patients admis en soins critiques a de nouveau été atteinte. À cela, il faut ajouter l'épidémie de bronchiolite qui repart à la hausse depuis la fin des vacances de la Toussaint. Triple épidémie donc qui pèse et va peser sur les services hospitaliers dans les semaines à venir. Le plan blanc a d'ailleurs d'ores et déjà été activé dans plusieurs établissements.
Et on assiste à des manifestations inédites en Chine, un mouvement qui s'est encore étendu ce week-end pour protester contre la politique draconienne zéro Covid du pouvoir là-bas. 2 arrestations à Shanghai cette nuit et conséquence, la bourse de Hong Kong perdait plus de 3% cette nuit. Il est 7h33 sur RMC et Emmanuel Macron fait la promesse de construire des réseaux de RER dans 10 grandes métropoles, ailleurs qu'à Paris, là où les déplacements sont compliqués, dit le président dans une vidéo. On ne sait pas quelles sont les villes concernées. Lille, Lyon, Aix-Marseille ont déjà été identifiées, mais on attend un rapport mi-décembre du Conseil d'orientation des infrastructures pour en savoir davantage. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, demande déjà un rendez-vous à Matignon. En attendant, le Conseil national de la sécurité routière demande au gouvernement de sanctuariser les trottoirs, les rendre aux piétons en verbalisant les vélos et surtout les trottinettes électriques qui circulent. C'est déjà prévu dans le code de la route, mais la loi en fait n'est pas appliquée à ce jour. Pourtant, les trottinettes électriques sont responsables de 60% des accidents sur les trottoirs. Des exemples avec Siam Spencer à Paris pour RMC.
Il y a plusieurs mois, Sylvain se fait percuter par une trottinette.
Je l'ai pas du tout vu venir.
Plus de peur que de mal, mais pourtant...
Dans les mois qui ont suivi, j'ai eu peur de m'en prendre une.
Alors pour Sylvain, il faut rendre le trottoir aux piétons.
Vu comme c'est pratiqué, c'est dangereux dans une ville comme Paris, où il y a beaucoup de circulation, c'est très dense.
Et ce n'est pas le seul Parisien à redouter les trottinettes électriques sur le trottoir.
Le trottoir, normalement, c'est pour les gens, les piétons, c'est pas pour les trottinettes. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'accidents à cause de ça.
Bah j'ai peur des fois, ouais, quand ils passent en sortant des restaurants, c'est hyper dangereux des fois.
Arnaud Kielbassa, vice-président de l'association APACOVI, engagée dans la lutte contre les incivilités routières, propose plusieurs pistes pour plus de sécurité.
Dissuader les infractions par la verbalisation pour éviter que les gens se pensent tout permis en trottinette. Ensuite de ça, il faut mettre en place donc une immatriculation qui servirait à retrouver les gens, à les identifier et puis à dissuader de la fuite. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de délits de fuite sur les accidents qui se passent.
Autre piste, obliger les loueurs de trottinettes à transmettre aux forces de l'ordre l'identité des utilisateurs impliqués dans un accident.
C'est à compter de ce matin que Jean Castex va enfiler son nouveau costume de patron de la RATP. Les syndicats lui prévoient un comité d'accueil au siège du groupe à Paris. Au moment où la région Île-de-France envisage une hausse du ticket de métro de 40 centimes, il passerait à 2,30 euros l'année prochaine. C'est écrit noir sur blanc dans un document qui doit encore être voté dans 10 jours.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Coupe du Monde 2022 qui ne ressemble pas vraiment à une Coupe du Monde d'ailleurs, avec les restrictions comme la consommation d'alcool au Qatar. Il y a des animations dans tous les sens, mais les supporters restent dans leur chambre d'hôtel pour voir les matchs. C'est ce que nous dit Martin Bourdin qui est sur place au Qatar pour RMC.
Depuis 10 jours, les rues de Doha ressemblent à un défilé de mode de supporters de foot. Il y a des maillots, des drapeaux partout, mais à part quelques chants de supporters sud-américains, tout est relativement calme. L'ambiance Coupe du Monde est loin, reconnaît Johnny, un supporter belge.
Ça y ressemble au niveau du nombre de personnes dans les rues. Au niveau de l'ambiance, c'est pas la même chose qu'en Russie. Mais les gens sont beaucoup plus réservés et timides. Donc ce côté festif Coupe du Monde est beaucoup moins présent ici.
Alors les supporters en profitent quand même.
Ce n'est pas nul, ce n'est pas mieux. C'est juste différent. On vit le foot différemment.
Car pas besoin de bouger d'une ville à l'autre. Tout se passe à Doha, devenu une sorte de parc d'attractions du foot où les supporters se baladent tranquillement et peuvent suivre tous les matchs.
On a l'impression d'être au paradis du foot.
Mais Daniel, comme beaucoup d'autres, ne regarde pas ces matchs à la fan zone ou sur le front de mer, des lieux pourtant réservés aux supporters. Ce Hollandais préfère les suivre en hauteur, dans les bars abrités par les grands hôtels où tout le monde peut acheter de la bière.
C'est complètement occidentalisé là-dedans. Ici, on ne peut acheter de l'alcool que dans ces endroits, dans ces bars. C'est vraiment la fête. Donc les gens restent à l'intérieur, moins dans la rue, à la différence de la Russie ou du Brésil où tout se passait dehors.
Dehors, ils s'y retrouvent finalement assez rarement, uniquement pour manger ou pour visiter.
C'était la fête hier sur les Champs-Élysées à Paris, avec les centaines de supporters du Qatar qui fêtaient leur victoire 2-0 contre la Belgique. Ça a tourné aux affrontements du Maroc qui célébraient leur victoire contre la Belgique. Ça a tourné aux affrontements avec des dizaines d'interpellations en Belgique et aux Pays-Bas. L'Allemagne, elle a frôlé le pire en accrochant le nul un partout contre l'Espagne en toute fin de rencontre. On reverra le Brésil toujours sans Neymar en fin de journée à 17h contre la Suisse, et le Portugal de Ronaldo à 20h contre l'Uruguay.
Et puis le Quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
À 13h50 sur RMC Découverte, les pronostics de la Dream Team ce matin, le 12, le 8, le 12 en favori Fame Music, le 8 en outsider, Éolien de Chenu.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 7h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le ministre des Transports vient de s'installer dans ce studio. Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Dans un instant, on va revenir avec vous sur cette annonce surprise d'Emmanuel Macron hier soir, 10 RER dans les plus grandes villes de France. Mais au même moment, le ticket de métro à Paris qui augmente, qui pourrait prendre 40 centimes. Et puis la grosse galère dans les transports. À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 sur RMC. Bienvenue à vous.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous Clément Beaune. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué au transport. On va d'abord essayer de comprendre les détails de cette annonce hier. Emmanuel Macron qui a annoncé le lancement de RER dans des grandes villes de France. Écoutez.
C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
Écologie, économie, qualité de vie, on met tout ça dans un shaker, on fabrique des RER. Quelle ville d'abord? Est-ce que vous avez déjà un peu une idée ou est-ce que pour l'instant c'est encore flou?
Alors d'abord, c'est une grande ambition qu'a donné le président de la République. On a besoin, on a raison d'investir dans les transports publics. C'est une ambition qui est au fond un grand projet pour le pays, qui est un peu comparable à ce qui avait été lancé pour le Grand Paris il y a une dizaine d'années, qu'on est en train de réaliser. Dans le budget cette année, on a beaucoup dit, il manque des choses, etc. Il y a 1 milliard d'euros presque
pour financer le Grand Paris. Et comme l'a dit le président, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la région parisienne, même s'il y a des grands besoins, qu'on réserve en quelque sorte ces liaisons entre les quartiers des banlieues, les quartiers des grandes villes, à la région parisienne. Donc on veut le faire dans une dizaine de grandes villes. Ce sera affiné, il n'y a pas une liste qui est encore déterminée. Mais il y a des projets qui ont déjà démarré ces derniers mois, parfois ces dernières années.
À Lille, par exemple ?
À Lille, à Strasbourg. On voit à Strasbourg qu'il y a un projet qui est très avancé, qui est soutenu par l'État, par la région, par la métropole de Strasbourg, qui sera lancé d'ailleurs dans les prochaines semaines, j'y participerai.
Mais vous vous fixez quoi comme délai, vous vous fixez quoi comme horizon ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut préciser combien ça coûte, les tracés, les villes qui seront prêtes en priorité, qui seront soutenues aussi par l'État. Il y a un rapport qui est en cours, qu'on appelle le Conseil d'orientation des infrastructures. C'est présidé par un parlementaire, il y a tous les partis politiques qui y participent, et il rendra ses travaux avant Noël. Donc on aura, notamment sur ces RER métropolitains, ces réseaux dans les métropoles, des informations plus précises qui seront travaillées par l'administration et puis par les politiques. Et puis ensuite, en début d'année, sous l'autorité de la Première Ministre, on définira des calendriers et des financements plus précis. C'est une dizaine de métropoles, le président a dit 10, donc il n'y a pas encore une fois des listes prédéterminées, mais les projets sont déjà relativement mûrs. J'ai évoqué Strasbourg, vous avez mentionné Lille, il y a Bordeaux, il y a Toulouse par exemple aussi.
Alors évidemment, on a envie que de ça, hein. Je veux dire, on se dit le retour d'une forme de planification, d'aménagement du territoire, au moment où on nous dit qu'il faut arrêter la voiture, c'est vrai que c'est assez cohérent de proposer des alternatives. Mais au fond, créer des nouveaux RER alors que les RER existants fonctionnent rarement très bien, ça paraît un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, non ?
Mais vous avez raison, mais les transports, c'est investir dans l'avenir. Et il faut le dire honnêtement à ceux qui nous écoutent, quand on lance un projet d'investissement dans les transports, on le voit avec le Grand Paris que j'évoquais, qui a été lancé il y a presque une décennie, ça met énormément de temps, surtout les projets les plus ambitieux. C'est pour ça que ces fameux RER métropolitains, c'est un horizon d'une décennie. Il y en a qui sont prêts plus vite comme Strasbourg, d'autres qui mettront plus longtemps. Et puis on doit changer ou améliorer, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a du volontarisme, le quotidien. Et par exemple, en Ile-de-France, je sais que c'est difficile en ce moment. Dans les Hauts-de-France, je sais qu'avec les TER, c'est difficile en ce moment. Dans les Hauts-de-France, moi j'ai demandé à la SNCF un plan pour recruter des conducteurs. On fait appel par exemple à des jeunes retraités pour qu'on comble les manques, il y a des pénuries aujourd'hui, le plus vite possible. En Ile-de-France, on travaille avec la région, la RATP.
Est-ce que augmenter les salaires ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'attrape pas les mouches avec du nez.
Vous avez raison.
Où il faut, c'est très bien de dire on va embaucher, mais si vous n'augmentez pas les salaires, c'est-à-dire si la fiche de poste n'est pas plus attractive, vous allez continuer à avoir des manques de chauffeurs partout en France.
Mais je vous prends deux exemples. À la SNCF, il y a eu, dès que je suis arrivé, c'était engagé des négociations salariales cet été, qui ont permis des hausses de rémunération d'environ 6%. C'était nécessaire, le dialogue social a fonctionné. Ça fait aussi partie, en effet, de l'attractivité des métiers. Il n'y a pas que ça. Parce que faut être honnête, quand vous accélérez les recrutements, même quand vous payez mieux les gens et que vous les attirez davantage, bah ça met 12 à 18 mois parce qu'il est hors de question de faire conduire un métro, un bus ou un RER par des personnes qui ne sont pas qualifiées.
Et puis il y a aussi cette question aussi de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on parle de la galère dans les transports, bah si on en parle au maire, ils disent c'est l'État. Si on en parle à l'État, on nous dit bah non c'est la collectivité. C'est jamais le maire, c'est plutôt la région. Là pour l'Île-de-France, on a quand même l'impression que c'est la guéguerre aussi entre Anne Hidalgo qui dit bah non c'est pas moi. Quand on dit que c'est la RATP dit bah non c'est pas nous.
Oui.
C'est Valérie Pécresse. Enfin, je veux dire, il y a quand même aussi un problème à un moment de se parler, se mettre autour de la table et prendre ses responsabilités.
Vous avez complètement raison. Je pense que c'est quand même bien de définir les responsabilités. Moi, c'est ce que j'ai fait. En Ile-de-France, je trouve que c'est la région. C'est pas une stigmatisation, c'est une réalité qui organise les transports, qui en fixe le prix. Et ça veut pas dire qu'on doit pas travailler ensemble. Moi, je travaille avec Valérie Pécresse au quotidien. J'ai reçu Jean Castex, qui dirige la RATP, dès jeudi, pour discuter des difficultés sociales, des difficultés de transport. Le but, c'est pas de se renvoyer une patate chaude. Le but, c'est de trouver des solutions le plus vite possible. Recrutement et investissement pour l'avenir.
Et on a évoqué la question du coût de l'infrastructure, mais il y a aussi le coût pour l'usager. Au moment où vous nous annoncez ces RER dans les 10 villes de France, on apprend que le ticket de métro parisien, hein, pour se déplacer en Ile-de-France, passerait de 1,90€ à 2,30€.
Alors l'information qui a été relayée, je crois que ce sont des documents internes à Ile-de-France Mobilité, qui est la région Ile-de-France.
Mais vous, le ministre des Transports, vous avez le moyen de dire oui ou non ? Est-ce que vous allez donner le feu vert à une telle augmentation ?
Pour être très clair, c'est pas le ministère des Transports et c'est pas l'État, c'est une réalité qui fixe le prix des transports à Marseille, à Paris ou ailleurs. On fixe le prix avec la SNCF, les TGV, les intercités. Si on peut discuter avec la région, moi je l'ai dit, parce qu'il faut que chacun assume ses responsabilités et puis ensuite travaille ensemble. Il n'y a aucune justification à ce qu'on passe le Navigo, par exemple, à 100€ et qu'on ait des augmentations de 25 ou 30%. Je n'en vois pas de justification et tout le monde est d'accord pour dire que ça n'est pas tenable et que ça n'est pas le bon sens quand on veut justement investir.
C'est-à-dire que vous pouvez pas d'un côté dire aux Français qu'il faut arrêter de prendre la voiture,
mais
faut prendre
c'est
les
pour
transports,
ça,
et que les transports, un, fonctionnent mal et deux, soient plus chers. C'est pas du tout logique.
C'est pour ça qu'on incite la RATP très fortement à assurer les recrutements le plus vite possible. C'est pour ça que dans d'autres régions, c'est la SNCF avec les TER, on les soutient aussi. J'ai demandé ce plan d'accélération, l'État prend ses responsabilités. Et en Île-de-France, puisque je sais que ça concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent, on va continuer à travailler avec la région.
Elle vous demande de l'argent, Valérie Pécresse. Elle dit qu'elle a besoin de sous et qu'elle a besoin que l'État
mette au pot. C'est très simple, c'est responsabilité et travail commun. Responsabilité, c'est de dire qui fait quoi. Il faut quand même le dire. On a voulu décentraliser les transports. C'est normal que chacun assume ses responsabilités, en l'occurrence, la région.
Mais vous ne mettrez pas les sous?
Si on peut discuter de soutien et d'aide à la région Île-de-France. On a une discussion en cours, c'est pour ça que moi, j'évite de mettre la charrue avant les bœufs. On a justement une discussion qui est encore en cours. Le budget de la région, je crois qu'il sera voté d'ici une quinzaine de jours. Et donc, ces jours-ci, on peut l'utiliser pour éviter justement que les usagers payent une situation intenable. Je crois que ça n'est profitable pour personne.
Vous allez rencontrer Valérie Pécresse dans les...
J'ai déjà rencontré plusieurs fois. Je vais continuer à discuter, bien sûr, ces jours-ci avec Valérie.
Mais il n'y a rien de prévu particulièrement, quoi, quand vous avez vu...
Mais ce sera début décembre. Écoutez, les documents internes à la région, je n'ai pas à les commenter. Ce que je dis simplement, c'est un, on travaille ensemble. Deux, c'est la région qui doit ensuite fixer les tarifs en responsabilité. Et trois, je ne souhaite pas, en effet, qu'on ait des hausses de cette nature. Et on va tout faire pour les éviter.
Charles, il y a une question des auditeurs.
Oui, sur Direct Studio, Corinne qui nous dit « Moi, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence. J'entends encore qu'on va dépenser des dizaines de milliards pour les grandes villes. Mais nous, à la campagne, on voit juste les petites gares qui ferment et on voit de moins en moins de trains passer. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ?»
Non, vous avez raison, il y a un sujet de justice. D'abord, je le précise, les RER métropolitains, je sais que c'est parfois un peu confus, c'est des réseaux dans les grandes métropoles qui peuvent aller chercher assez loin, dans des... quartiers, dans des banlieues, dans des zones périurbaines qui sont...
Ça ira beaucoup plus loin que d'aller un tram ou un métro.
Exactement. Quand vous voyez par exemple ce qui se passe dans le Grand Paris, hein, c'est pas que pour Paris, mais c'est en cours de développement, c'est parfois justement donner accès à un département comme la Seine-et-Marne.
Mais les petites gares, quand Corinne dit, les petites gares.
Et puis à côté de ça, on fait un effort, le président en disait un mot hier, sur les petites lignes et les petites gares. C'est le gouvernement de Jean Castex qui avait réinvesti de manière nécessaire, historique, dans le train de nuit, dans les petites lignes. Il y a déjà 6000 kilomètres sur lesquels aujourd'hui, dans le budget de mon ministère, on a mis les financements, ça se déploie sur plusieurs années, on signe avec les régions, elles identifient les petites lignes et on finance. Et le président l'a rappelé hier, notre objectif c'est d'aller jusqu'à 9000 kilomètres de petites lignes qu'on sauve ou qu'on rouvre. Ça mettra un petit peu de temps, mais il y en a qu'on a commencé à rouvrir, je pense avec la région Occitanie par exemple, ces derniers mois, on va continuer cet effort. Donc je n'oppose pas l'un à l'autre, on a un effort d'investissement massif à faire dans les transports
mais
publics et dans le ferroviaire.
Mais pour restaurer les lignes qui existent, on le sait, par exemple dans le Pas-de-Calais, en ce moment c'est une galère sans nom.
Oui, je l'ai...
On a de nombreux témoignages qui nous le disent, des trains qui sont annulés, des délais interminables. Est-ce que la situation est en train de se régler?
Oui, mais ça prend un peu de temps, mais je le dis très franchement.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je vais vous dire très honnêtement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mauvaise prévision des choses. Je le regrette et je l'ai dénoncé. La SNCF et la région ont fait une discussion et ça a été mal fait. Je ne cherche pas à dire qui est responsable de quoi, c'est une réalité pour les gens aujourd'hui. Et donc il n'y a pas assez de recrutement de conducteurs, pour être clair. Et puis en plus, il y a des pénuries parce que c'est un métier en tension. Donc moi, j'ai demandé un plan exceptionnel qu'on n'a jamais fait pour qu'on soit créatif, qu'on trouve des solutions. On ne dise pas juste aux gens, bah tant pis.
Donc,
et donc par exemple, il y a eu déjà des trains, il y a déjà des conducteurs qui ont été réaffectés dans les Hauts-de-France il y a quelques jours. Il y aura de nouveaux trains qui seront remis en place d'ici Noël. Et je l'ai demandé à la SNCF d'aller chercher toutes les solutions. Je le disais, par exemple, chercher les jeunes retraités. Ils sont capables de conduire un train, ils peuvent être motivés, on peut les payer. Et ça peut être une
solution.
Heureusement
qu'ils sont là, les retraités, parce que franchement, on a l'impression que là, on a besoin de retraités pour les profs.
Mais vous savez, Pauline de Mayerme, c'est aussi parfois la rançon, si je puis dire, de la baisse du chômage. Il y a des métiers en tension. Moi, quand je suis arrivé, c'était les transports scolaires. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de galère pour les parents à la rentrée et qu'à part quelques très rares exceptions, on ait les transports scolaires avec ce type de solution. Et bien, pour les TER, je m'engage aussi dans les Hauts-de-France à ce qu'on résolve le problème le plus vite possible. C'est dur, parce qu'on ne va pas transiger sur la sécurité, la formation, mais on va faire quelque chose d'exceptionnel et recruter notamment ces jeunes retraités.
Merci beaucoup Clément Beaune d'être venu dans ce studio ce matin après cette annonce donc d'Emmanuel Macron hier qui annonce donc ces 10 RER dans les grandes métropoles de France. Je rappelle que vous êtes le ministre des Transports. Il est 7h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et à suivre, eh bien, il y aura évidemment les explications de Nicolas Poincaré. Iran, États-Unis, une affiche très politique demain au Qatar pour la Coupe du Monde. Les deux pays ont coupé les ponts depuis 40 ans et ils vont se retrouver sur le terrain. Mais pourquoi ont-ils coupé les ponts? Les explications dans un instant de Nicolas Poincaré.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. La Star Academy a rendu son verdict samedi soir.
Oui, et même dimanche matin, car cette finale n'a commencé qu'après 22h pour cause de match de la Coupe du Monde. Et la grande gagnante de cette Starac s'appelle Anisha. Anisha, qui grâce au vote du public remporte donc 100 000 euros, un contrat d'un an avec la maison de disques Sony. Alors côté audience, ce retour de la Starac 20 ans après la première édition a été un succès, hein, près de 4 millions de téléspectateurs pour la finale, des primes qui ont tous cartonné. Le public a été séduit par le ton plutôt bienveillant de l'émission, ça tranche avec les autres téléréalités qu'on voit sur la TNT, et les fans du programme vont pouvoir poursuivre l'expérience puisque des visites du fameux château de Damary-les-Lys vont être organisées sur réservation pour le public pendant les fêtes de fin d'année. L'occasion, Apolline, vous qui avez toujours rêvé de vous mettre dans la peau d'une candidate de la Starac.
Ah bah j'y vais, si vous venez avec moi. Hein.
Allez, on y va ensemble, en duo.
En duo, Charlie Apo.
RMC, Apolline Matin.
17h54 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. Les États-Unis et l'Iran vont s'affronter demain lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et la tension monte entre les deux équipes.
Oui, parce qu'il s'agit bien sûr d'une affiche très politique. Hier, l'Iran a protesté auprès de la FIFA pour une sombre histoire de drapeau. Un responsable a même demandé que les États-Unis soient exclus de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Eh bien, parce que sur son site Instagram, la Fédération américaine avait publié un drapeau iranien amputé de l'emblème de la République islamique qui figure normalement au centre. Et ce n'était pas une simple erreur. C'était bien à revendiquer un responsable de la communication américain, c'était bien un geste de solidarité envers les femmes iraniennes. Finalement, après très vives protestations du régime de Téhéran, eh bien, les Américains ont fait machine arrière et ils ont republié le drapeau officiel iranien. Mais le message est passé, ce match ne sera pas comme les autres.
Et ils jouent dans un contexte très particulier.
Évidemment, parce que ce n'est pas anodin de participer à une telle compétition alors que votre pays est à feu et à sang. On estime à au moins 500 morts depuis le début de la révolution, 500 morts et environ 15 000 personnes arrêtées. Les sportifs et les sportives iraniennes ont pris des risques en se montrant solidaires des manifestants. Une championne d'escalade a participé à une compétition tête nue. Une équipe de jeunes basketteuses a posé sans le hijab. Mais ce sont surtout les footballeurs de la sélection iranienne qui ont créé un choc. Lors de leur premier match contre l'Angleterre, ils ont refusé de chanter l'hymne national pour protester contre la répression dans leur pays. Lors du second match, ils ont chanté, mais alors vraiment du bout des lèvres, au sens propre. Ils ont vaguement murmuré leur hymne, la bouche à peine ouverte, comme s'ils avaient reçu de fortes pressions pour chanter, mais qu'ils voulaient montrer qu'ils faisaient le minimum. Ce même jour, des supporters iraniens ont été renvoyés du stade parce qu'ils ou elles portaient des t-shirts de soutien aux femmes iraniennes. Mais il y avait dans le stade de nombreuses supportrices avec ou sans voile, ce qui est une image dérangeante pour les mollahs de Téhéran, parce qu'en Iran, les femmes n'ont pas le droit de se rendre dans les stades de football pour ne pas être exposées à la vue du corps de ces hommes en short. Le foot est un sport très populaire en Iran, mais les femmes ne peuvent le regarder que chez elles à la télévision.
Et demain, ce sera un match donc entre deux pays que tout oppose.
Oui, c'est une véritable guerre larvée entre ces deux pays. Les États-Unis imposent depuis des années de terribles sanctions qui ont mis l'économie iranienne à terre. Les Américains punissent l'Iran pour ses recherches sur le nucléaire. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques il y a plus de 40 ans. Juste après l'arrivée des ayatollahs, l'époque marquée par la crise de l'ambassade américaine à Téhéran. On se souvient que des étudiants, entre guillemets, avaient pris d'assaut l'ambassade, puis retenu 50 diplomates en otage pendant plus d'un an. Et depuis cet épisode, il n'y a plus aucun dialogue entre les deux pays. Récemment, l'antagonisme s'est encore creusé avec le soutien militaire que l'Iran apporte à la Russie, notamment en lui fournissant des drones.
Et les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques, mais ils se sont déjà affrontés en Coupe du Monde.
Oui, c'était en France en 1998, lors de la Coupe du Monde. Les Iraniens l'avaient emporté 2-1 et on se souvient qu'à l'issue du match, les 22 joueurs avaient ostensiblement fraternisé. Ils s'étaient embrassés. Les équipes finalement avaient été éliminées au premier tour, alors que cette fois, eh bien, l'Iran pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale. En cas de victoire sur l'équipe du Grand Satan, malgré la révolution. Donc tout le pays, tout l'Iran sera demain devant la télé.
Et nous aussi, parce que franchement, ça donne envie de regarder et on verra bien ce que ça donne. Merci Nicolas, Nicolas Poincaré tous les jours, 7h50 et puis à tout moment sur l'application RMC et les podcasts. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 8h avec à la une ce jeune de 16 ans en garde à vue après la mort d'un adolescent dans une rixe ce week-end près de Paris.